Mes bien chers frères, la liturgie, j'allais dire une fois de plus, en 3 semaines, nous propose encore de méditer une apparition. Et en plus, elle nous propose de méditer l'apparition qu'on a déjà méditée, c'est-à-dire celle d'il y a 3 semaines. C'est dire qu'en fait, c'est vraiment important, la résurrection du Christ passe par la compréhension de ce qu'est le Christ ressuscité, c'est-à-dire qu'il se donne à connaître dans les apparitions. Voilà pourquoi, pendant tout le temps de Pâques, on peut avec utilité reméditer ces textes. Je vous propose de le voir sous 2 angles, chaque apparition ayant un peu ses particularités. À celle-ci, vous avez remarqué que c'est celle après Emmaüs, du dimanche de la résurrection. Et Thomas est sorti entre-temps, hein, puisque les disciples d'Emmaüs arrivent. On nous précise qu'ils sont 11. Et on nous dit il parlait encore que le Seigneur leur apparut. Mais on sait qu'entre-temps, Thomas n'a pas vu cette apparition. Donc, ça a dû se dérouler. Et puis, Thomas est sorti, impétueux de savoir que le Christ était ressuscité. Il est sorti, il a laissé les autres. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ce soir. Il me semble que le message que le Seigneur délivre ici à ses apôtres, c'est la question de la vie. La vie du corps et la vie de l'esprit. Tout d'abord, la vie du corps. La vie du corps parce qu'ils sont dans la peur. Ils sont dans la peur d'être tués aussi. Ils sont dans la peur de leur propre mort. Tout comme nous sommes dans la peur de mourir. C'est une peur naturelle. Mais voilà, il est venu pour conjurer cette peur, pour leur dire que la vie après la mort était possible. Alors attention, le Seigneur n'est pas revenu vivre avec ses disciples. Parce qu'on aurait pu penser ça. D'ailleurs, au début, Marie-Madeleine, qui le reconnaît, lui essaye de le retenir en disant « Bon ben, chouette, il est revenu !» Non, il n'est pas revenu. Il est ressuscité. Il n'est pas de nouveau vivant. Il est vivant d'une vie éternelle. C'est pas la même chose. Vous le savez bien, c'est déjà extraordinaire, mais des résurrections, il y en a dans la Bible. Celle que vous connaissez bien, c'est celle de Lazare. Lazare est mort, c'est un homme. Comme tout homme, il connaît la mort. Et miraculeusement, le Seigneur le ramène à la vie. Lazare meurt et revient. Ce n'est pas le cas du Christ. Le Christ est venu vivre notre vie, il meurt, il connaît la mort humaine et il passe à travers la mort. D'où il se laisse voir de temps en temps à ses disciples pour leur assurer qu'il vit. C'est-à-dire qu'il n'est pas revenu et toutes les apparitions, vous regarderez bien, à chaque fois il dit « il arriva, il vint, il apparut, il était là ». Il n'est pas revenu vivre avec eux, il arrive à certains instants, se rend présent. Il ne faut pas confondre, effectivement, sinon, qu'allons-nous comprendre de la résurrection des corps? Pas grand-chose, comme tous ceux d'ailleurs qui raillent notre foi, en disant bah, « c'est pas possible, on va tomber en pourriture, ou alors on est brûlé, enfin, ça revient au même, tout ça va disparaître ». Ben, nous ne sommes pas idiots. Ça fait longtemps qu'on le sait, que corporellement, ma chair va se dégrader. Ce n'est pas ça la résurrection de la chair. La résurrection de la chair, c'est l'assomption de toute chair dans le Christ. Il nous faut fixer les yeux sur ce qui s'est passé. Sur la croix, il est là. Corps et âme, esprit, humanité et divinité, il meurt. C'est-à-dire comme tout homme, son corps se sépare de son âme. C'est ça la mort, hein ? Quand nous ne serons plus animés par l'âme anima. Ce sera notre mort. Et alors son corps est mis au tombeau. Mais son âme divine descend chercher les âmes des justes, aux enfers, dit-on. Et il remonte avec tous les justes pour être assumé en Dieu, c'est-à-dire reprendre tout homme et même sa propre chair. Voilà pourquoi le corps n'est plus présent, il sort des linges. Vous avez vu peut-être dernièrement, c'est pas fait exprès, c'est sorti pour Pâques, mais les dernières recherches sur le linceul de Turin, scientifiques j'entends, eh bien, on conclut que ce linceul ne peut pas exister tel qu'il est. Hein. voilà, c'est pas possible. Voilà. Parce que, et le plus grand des miracles, mais il y en a beaucoup sur le linceul de Turin, c'est que le corps est sorti sans qu'on déplie le linge. C'est compliqué. Alors voilà ce qui s'est passé, le Seigneur revenant du séjour des morts est remonté au ciel en emportant y compris son corps, qu'il assume. Voilà ce qu'est la vie de la chair. Alors il insiste beaucoup sur la question de la chair, parce que ses disciples ont peur, évidemment. C'est tellement étonnant comme nouvelle qu'ils ne peuvent pas y croire. Ça doit être un fantôme. Exactement comme nos contemporains croient, pour ceux qui croient qu'il existe une vie éternelle, qu'il y a une espèce de vie comme un esprit, mais un esprit au sens... Alors oui, je suis d'accord, c'est bien un esprit, mais une vie au sens, un esprit, un feu follet, un truc qui court par-ci, par-là, qui n'a pas vraiment de réalité. Alors le Seigneur leur dit, touchez, regardez, voyez. Et puis, comme ils ne sont encore pas convaincus, il leur dit, auriez-vous du poisson ? Je vais manger quelque chose. Il insiste pour que vraiment nous comprenions que son corps ressuscité n'est pas une idée de son corps, un symbole spirituel de son corps, mais vraiment son corps. C'est ce qui va se passer sur l'autel dans un instant. Le Seigneur, à travers le voile de l'hostie, va se donner à nous réellement. Et si c'était un signe, mes bien chers frères, vous ne viendriez pas chercher l'hostie. Je vous donnerai la bénédiction et puis basta. Vous voyez ? C'est bien parce qu'il y a réellement son corps présent que vous venez communier charnellement dans l'Esprit du Seigneur, bien sûr. Car c'est ça notre difficulté et notre profonde débilité. Mais c'est l'expérience qui veut ça, c'est normal. Hein. Nous sommes tous un peu matérialistes par nature, parce que nous croyons que la matière existe plus que l'esprit. Faites un examen de conscience, vous verrez que je ne suis pas loin d'avoir raison. En tout cas, c'est vrai pour moi. Parce que c'est notre expérience. Mais c'est une erreur. Ce que je touche ici n'est pas d'abord de la matière. La matière, c'est du bois, on peut en faire... Ça peut être un arbre à l'état naturel, ça peut être un embon comme celui-là, ça peut être une chaise, ça peut être une table, ça peut être du bois pour mettre dans le feu. Bref, la matière n'est qu'un support de l'existence même de celui qui, par son esprit, a voulu créer ici un embon pour une église. Ce que vous voyez est d'abord spirituel avant d'être matériel. La matière est le support de la vie, elle n'est pas la vie. Ça, c'était le premier point, le plus compliqué, mais le plus important. Le Seigneur vient vivre, vient redonner vie à toute matière, et par sa résurrection, il nous promet le même chemin, à travers la mort, de revivre dans notre corps. Ce qui sera assumé spirituellement de notre corps, c'est ça, le corps glorieux. Ça, c'est la vie du corps, mais il y a plus encore, en quelque sorte, une vie supérieure encore, c'est celle de l'esprit. Et c'est ce qu'il est venu leur annoncer, car, vous l'avez remarqué, il leur dit, il leur montre son corps pour la rémission des péchés. C'est l'unique mission qu'il donne à ses disciples. Allez dire que je suis ressuscité et que les péchés sont pardonnés. Quel lien, me dites-vous ? Non, vous ne me direz pas ça, parce que vous êtes déjà des théologiens avertis. Le lien, c'est que le péché, c'est la mort spirituelle. Le péché, c'est le trou dans l'âme. C'est ce qui m'empêche que mon âme soit remplie de grâce. C'est ce qui m'empêche d'être un saint. C'est ce qui m'empêche d'être pleinement vivant. C'est ça, le péché. Alors, le Seigneur, dans son corps glorieux, vient manifester que, à travers le fruit du péché, lui-même n'a pas péché, mais il a pris sur lui le fruit de tout péché, qui est la mort, qu'à travers ce manque, à travers ce trou d'être, à travers ce néant, à travers cette antimatière, dites-le comme vous voudrez, à travers ce manque, il est venu vivre et apporter la vie. Voilà pourquoi la contemplation de son corps glorieux, nous n'avons pas fini de le faire, elle est la transmission, cette contemplation de la vie du Christ lui-même dans son Église. Vous l'avez remarqué, immédiatement, après les femmes, qui elles-mêmes ont engendré l'Église, à mon sens. Premier titre, la Vierge Marie, mère de l'Église, comme a décidé enfin, après 50 ans, dans l'Église on ne va jamais très vite, hein, de le proclamer le pape François. Vous savez que c'est une nouvelle fête qui sera fêtée au lundi de Pentecôte. Dès après que l'Église aura reçu l'Esprit, nous fêterons la naissance de l'Église par Marie. Eh bien, dès après les apparitions aux femmes, le Seigneur vient apparaître à ses disciples pour constituer le ministère de la distribution de cette vie qui continue jusqu'à aujourd'hui et qui passe par votre indigne serviteur, la célébration des sacrements. Voilà ce qui se passe dans cette apparition. Nous sommes constitués en un peuple saint qui a charge de transmettre cette vie. Et à chaque baptême, nous donnons cette vie. À chaque Eucharistie, nous nourrissons notre vie intérieure, car c'est de celle-là dont nous allons vivre éternellement, lavés de tout péché, c'est-à-dire pardonnés, par-dessus le mal, par-delà la mort. Le Seigneur pardonne, il me donne la vie. Puissions-nous, mes bien chers frères, vivre intensément de cette vie donnée.